Et c'est l'heure de retrouver le journal de la rédaction et Thomas Cluzel. Bonjour cher Thomas.
Bonjour Nicolas.
Même lieu, même format et sans doute même durée.
Oui, 7 ans après, Emmanuel Macron est de retour à la Sorbonne avec un nouveau discours sur l'Europe. Avec quel objectif? Le président réfute toute tactique électoraliste à 6 semaines des Européennes. Nous serons sur place dès le début de ce journal et puis on en parlera avec notre invité aujourd'hui, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. À suivre également le dernier baromètre sur l'intégration au travail de la communauté LGBT+, le climat en entreprise n'a jamais été aussi progressiste, même si on le verra, les discriminations persistent. Et puis l'actualité à l'étranger, on se rendra tout d'abord à Jérusalem après qu'un jeune Israélien otage du Hamas a réapparu hier soir dans une vidéo. Enfin, c'est aujourd'hui qu'une figure majeure de l'opposition au président turc Erdogan, le maire d'Istanbul, devra affronter une nouvelle audience au tribunal. À tous ceux qui pouvaient encore douter que la campagne, sinon la bataille des Européennes était bel et bien lancée les dernières heures, comme celle à venir, devrait achever de les convaincre. Après que Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti Socialiste, a le premier grillé la politesse à ses adversaires hier soir à Strasbourg pour tenter de reprendre des mains du chef de l'État le drapeau aux 12 étoiles sur fond azur, dénonçant tour à tour les reculs, les trahisons, les blocages de la Macronie, et avant que Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National, et par ailleurs en tête des intentions de vote, ne présente lui cet après-midi son programme afin d'imposer un duel au sommet avec le camp présidentiel. Emmanuel Macron est donc pour sa part depuis ce matin à la Sorbonne pour délivrer un discours sur l'Europe. Manière, même si l'entourage présidentiel s'en défend, de contribuer à la campagne de la liste Renaissance portée par Valérie Ayer, laquelle peine encore à se frayer un chemin à 6 semaines de l'échéance. Alors bien entendu, tout le monde garde en tête le discours plein de verve que le tout jeune président, à peine élu, avait prononcé au même endroit à l'automne 2017 pour lancer son premier quinquennat. 7 ans plus tard, la magie peut-elle opérer une seconde fois? L'effet de nouveauté a nécessairement disparu. Reste à savoir si le pouvoir des mots s'est aussi émoussé. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
On se souvient que lors de l'acte 1 de son discours, Emmanuel Macron plaidait pour une Europe souveraine. Et pour l'acte 2, Rosalie, il veut une Europe puissance.
Oui, même amphithéâtre, même drapeau, même durée, a priori. Mais 7 ans plus tard, le contexte a changé, insiste le président.
Le risque est immense d'être fragilisé, voire relégué.
En Ukraine, grandes transformations en cours, démocratie contestée, Emmanuel Macron l'assure.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir.
Et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
Dramatisation des enjeux par un président qui, dans ce deuxième discours de la Sorbonne, se félicite de l'intuition que l'histoire lui donne le sentiment d'avoir eu dans le premier.
Notre Europe a décidé, elle a avancé.
Et ce concept qui pouvait sembler, il y a 7 ans, très français de souveraineté, s'est progressivement imposé en européen.
Mais force est de constater, poursuit-il, que ça ne suffit pas. Il faut aller plus vite, plus fort, aller, dit-il, vers la puissance.
L'Europe puissance, c'est simple. C'est une Europe qui se fait respecter et qui assure sa sécurité. C'est une Europe qui assume d'avoir des frontières et qui les protège. C'est une Europe qui voit les risques auxquels elle est exposée et qui s'y prépare. Pour ça, il nous faut en quelque sorte sortir d'une forme d'état de minorité stratégique.
Bâtir en européen une défense crédible, une vraie politique migratoire, un nouveau modèle de croissance, on a bien fait, il reste à faire, souffle entre les lignes le président à son camp, traçant la voie à suivre, sans ignorer qu'il lui reste encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Un proche résume, c'est du 110 mètres haies, avec Sorbonne 2, on franchit la première.
Merci Rosalie Lafarge en direct de la Sorbonne avec Benjamin Troncin pour les moyens techniques et toujours dans le cadre de cette campagne des Européennes. L'invité politique de la semaine à présent aujourd'hui avec nous, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour Thomas. Olivier Faure, qu'est-ce que vous pensez de cette intervention, de cette implication du président de la République, de ce nouveau discours de la Sorbonne, de ce que vous en avez vu pour le moment?
Bon, c'est un discours de campagne, et c'est un discours qui vient après 7 années de réflexion et de déception. Et la réalité, c'est que s'il y a 7 ans, on pouvait créditer le président d'une envie, d'un désir d'Europe, la réalité, c'est que pendant 7 ans, il n'a été, en réalité, pour peu de choses dans ses évolutions. La réalité, c'est que c'est pas ses intuitions qui ont fait bouger l'Europe, ce sont les crises qui ont fait bouger l'Europe. C'est la crise sanitaire, c'est la crise géopolitique, c'est la crise énergétique. Et fort heureusement, les Européens ont su, parfois, effectivement prendre le bon tournant. Mais la réalité, c'est aussi qu'Emmanuel Macron a été souvent un facteur bloquant. Il a été celui qui s'est opposé au devoir de vigilance des entreprises multinationales. C'est-à-dire que sur la chaîne de valeur et de la chaîne de production, il est celui qui s'est opposé au fait qu'il y ait une responsabilité pour ceux qui sont en haut de la chaîne et qui, jusqu'ici, profitaient des sous-traitances en cascade pour maltraiter le travail humain. Sur le travail forcé, il est celui qui, il y a quelques heures, a fait exclure tout ce qui est matériel stratégique. Et donc, quand vous avez des Ouïghours qui sont aujourd'hui dans les chaînes de production pour fabriquer des panneaux photovoltaïques, eh bien, vous avez, en fait, ils seront encore autorisés à importer ces panneaux photovoltaïques. Dans le même temps, il nous parle de réindustrialisation, qui est une opportunité. Il fait mal. La transition écologique est une opportunité pour la réindustrialisation. C'est vrai. Mais quand on voit que c'est le même homme qui laisse filer au fur et à mesure notre industrie, il y a aujourd'hui deux entreprises en France qui fabriquent du photovoltaïque. Il y en a une qui est en train de couler en ce moment à Nantes, une autre qui va couler et qui est à Strasbourg. Que fait le chef de l'État? Rien. Il vend notre industrie d'Alstom jusqu'à notre Oxygène, jusqu'à Chapelle d'Arblay, jusqu'à, enfin, toutes ces entreprises dont on a, qui ont scandé les derniers mois de notre actualité et qui montrent qu'en réalité, entre le discours et la réalité, c'est malheureusement Dalida qui a raison, c'est parole. Mmh.
Voilà. Le candidat que vous soutenez, Raphaël Glucksmann, hier soir à Strasbourg, a donné un meeting devant plusieurs centaines de personnes et il a dit beaucoup de ce que vous dites là aujourd'hui. Il a parlé des reculs, des renoncements, des trahisons. Est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à un peu trop dénoncer et se mettre dans l'opposition alors que finalement vous défendez, vous êtes le camp pro-européen aussi. Est-ce que vous êtes dans le même camp ou vous êtes dans un camp opposé?
Mais ça ne veut rien dire. Nous sommes bien sûr des Européens convaincus. Nous pensons que c'est l'échelle pertinente pour résoudre les grandes questions qui sont devant nous, les grands défis, qu'ils soient géopolitiques ou qu'ils soient énergétiques ou qu'ils soient climatiques. C'est une évidence. Mais ça ne veut pas dire qu'on mènerait la même politique. C'est comme si vous me demandiez si aujourd'hui je suis français. Oui, je suis français. Est-ce que je suis pour la même France qu'Emmanuel Macron? La réponse est non. Emmanuel Macron est un néolibéral, je suis un socialiste. Et donc ça distingue forcément les politiques que nous mènerions. C'est pas parce que nous avons la volonté de construire à une échelle qui est une échelle pertinente que nous avons exactement les mêmes envies, les mêmes désirs, la même volonté. Je ne suis pas pour une Europe à laquelle on ferait adhérer par la peur. Je suis pour que ce soit un enthousiasme qui nous guide. Nous avons là un défi qui est un défi historique, celui du climat par exemple, et il suppose non pas de chercher à effrayer les gens mais de leur dire que nous sommes une génération qui peut changer de modèle, qui peut faire en sorte que pour la première fois, nous réfléchissions depuis la première révolution industrielle à aujourd'hui, que nous réfléchissions effectivement à la façon dont nous produisons, dont nous consommons. Ça, c'est extrêmement... C'est même passionnant, en réalité. Et c'est là, en fait, un modèle. Hier soir, Raphaël a plaidé pour une Europe de la sobriété. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça indique sur la façon dont on peut vivre ensemble? Est-ce que c'est la surconsommation qu'on continue à pousser ou est-ce qu'au contraire, on cherche à faire différemment? Là, il y a matière, évidemment, à discussion et à débat entre une droite qui s'assume et une gauche qui s'assume aussi.
Il y a quelques semaines, Valérie Ayet disait « Raphaël Glucksmann devrait nous rejoindre, on vote les textes à 90% ensemble ». Et lui avait corrigé en disant non, c'est pas 90%, c'est 80%. Est-ce que la campagne électorale fait pas qu'on parle finalement que des 20% et qu'on occulte les endroits où on vote de la même façon, c'est-à-dire 80%, et est-ce que ça ne tronque pas ce qu'est le débat au niveau européen, c'est-à-dire qu'on fait des compromis, on fait pas de la politique comme en France, on fait de la politique différemment. Est-ce qu'on n'a pas tendance à trop nationaliser ce scrutin?
Mais bien sûr que en fait il y a des votes communs, mais il y a autant de votes communs avec Valérie Ayer qu'avec Manon Aubry ou avec Marie Toussaint. Et en réalité, au Parlement européen, où il n'y a pas de majorité absolue, il y a des majorités d'idées qui se forment au fur et à mesure. Et donc la question, c'est de savoir sur quel débat il y a des désaccords. Ben, prenons un autre exemple, prenons l'exemple de la PAC. La politique agricole commune qui a été votée par à la fois la droite et l'extrême droite est une politique agricole qui permet de subventionner, qui donne 80% de la PAC à 20% des agriculteurs et qui ne préserve pas l'agriculture paysanne, qui ne permet pas à ceux qui font la transition vers le bio ou vers l'agroécologie d'être soutenus à la mesure des efforts qu'ils entreprennent. C'est une distinction qui est une distinction majeure entre nous. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait revenir. On a porté ici et en Europe la question des travailleurs des plateformes, qui sont des gens qui sont les nouveaux forçats, qui sont les nouveaux tâcherons du 21e siècle, qui n'ont aucun droit. Vous êtes cycliste et vous êtes donc à Deliveroo, vous êtes donc livreur, eh bien vous tombez de votre vélo et vous vous cassez la jambe, vous n'avez pas l'accident du travail, vous êtes simplement renvoyé au fait que vous êtes un auto-entrepreneur qui est censé être son propre patron. Heureusement, sous l'impulsion des socialistes, et notamment de Nicolas Schmitt, qui est commissaire socialiste européen, luxembourgeois, eh bien nous avons réussi à imposer cette directive sur donc les travailleurs des plateformes. C'est donc une grande victoire. Mais qui s'y est opposé jusqu'au bout? Qui a défendu Uber jusqu'au bout? Emmanuel Macron. Donc vous avez là, en fait, de vraies distinctions. Mais évidemment, sur un certain nombre de sujets, nous nous retrouvons parce que il est logique que nous nous retrouvions pour condamner, par exemple, la politique de Vladimir Poutine en Ukraine. C'est une évidence.
Si Raphaël Glucksmann fait un bon score, comme ce que promettent actuellement les sondages, 10, 13, 15%, on verra. Mais qu'est-ce que ça change pour vous?
En quelques mots, s'il vous plaît.
Quelques mots, ça change tout simplement que nous aurons réussi à faire passer un message et renforcer à l'échelle européenne les socialistes européens. Si ce groupe-là devenait le premier groupe au Parlement européen, il serait celui qui a la Commission européenne. Et si nous avons la Commission européenne, ce n'est pas la même chose d'avoir Madame von der Leyen ou un nouveau Jacques Delors que pourrait être Nicolas Schmitt, qui est celui qui a porté le salaire minimum européen, qui a porté cette directive sur les travailleurs des plateformes et qui est aujourd'hui celui qui défend une Europe à la fois sociale, démocratique et écologique.
Et on terminera par ces mots. Merci Olivier
Favre,
premier secrétaire du Parti Socialiste, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Stéphane Robert.
L'inclusion de la communauté LGBT+, au travail, a-t-elle évolué favorablement ces dernières années? Oui, répond le quatrième baromètre publié ce matin.
Oui, selon l'enquête conduite sur un échantillon représentatif de près de 9000 salariés, les mentalités évoluent, et ce même si certains archaïsmes demeurent encore puissants. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour.
Au total, 77% des Françaises et des Français interrogés considèrent que leur organisation propose un cadre accueillant et respectueux des personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Pour autant, certaines zones d'ombre persistent donc. Vous avez recueilli, Mathieu, le témoignage de deux salariés transgenres.
Il y a 4 ans, alors CDD à la Cour nationale du droit d'asile, Céleste se lance. Les amis proches savent, pas encore la famille. Son environnement professionnel, où l'on applique le droit, la rassure, l'encourage à franchir le pas.
Les collègues de mon âge sont très vite venus vers moi pour me dire merci de nous avoir fait confiance et viens nous voir si tu as besoin, on est là. Donc c'était très appréciable. Après, j'ai eu des échanges avec ma hiérarchie aussi qui voulait s'assurer que tout se passe bien, donc je pouvais venir vers eux si besoin. Mais c'est vrai que c'est une période, soit on tombe sur des personnes qui comprennent et qui sont tout de suite dans une affirmation de qui on est, soit on est dans un échange où les personnes sont un peu troublées et où il faut clarifier. Et donc ça demande énormément de pédagogie. Beaucoup d'explications sur une base de reprise et recadrage, en fait, à dire non, c'est madame. Et en fait, après, ça se passait plutôt bien, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce travail à faire.
Autre entreprise, une start-up label Next 40, prétendument progressiste et autre réalité, vécue par Edan Idress, pronom il, lui.
Avec mon équipe proche, très bien. Par contre, dès que j'allais au siège, je sentais que le regard sur moi avait un petit peu changé. Et j'ai toujours eu un petit peu un look de garçon manqué. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me présenter en tant qu'homme, j'ai senti une certaine réticence. Des regards un petit peu de travers ou des rires quand je passais dans certains couloirs. On m'avait rapporté même que certains collègues parlaient de travestissement en parlant de moi. Donc du coup, c'est forcément des choses qui m'ont fait mal. Et je pense que la plus grosse violence que j'ai vécue, c'était au moment où j'ai rencontré quelqu'un de l'équipe légale. Et en fait, moi, je lui avais demandé, est-ce que avec notre architecture technique interne, on peut changer mon adresse mail et changer mon prénom d'usage? Et en fait, la personne de l'équipe légale m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Écoute, là, tu es au début de ta transition hormonale. Pour moi, tu n'es pas un homme. Donc, tant que tu ne présenteras pas comme un homme et tant que je n'aurai pas jugé que tu ressembles à un homme, je t'appellerai toujours par ton prénom de naissance et je te genrerai toujours au féminin. »
Edan Idress travaille aujourd'hui dans de bonnes conditions à Ubisoft, l'une des 83 sociétés qui ont signé la charte de l'autre cercle sur l'inclusion des personnels LGBT+.
Merci Mathieu Laurent.
Malgré un accord de dernière minute hier avec le syndicat majoritaire des Aiguilleurs du Ciel, le trafic aérien s'annonce extrêmement perturbé aujourd'hui.
Oui, 3 vols sur 4 supprimés au départ ou à l'arrivée de Paris-Orly et plus de la moitié à Roissy Charles de Gaulle. En pleine déroute financière, le géant informatique Atos a dévoilé ce matin des revenus au premier trimestre en baisse de 11%, des résultats scrutés de très près par ses créanciers, lesquels ont jusqu'à demain pour fournir leurs propositions dans le cadre du plan de refinancement du groupe.
Face aux catastrophes qui ne cessent de s'intensifier et par ailleurs de se multiplier, les Français sont-ils prêts à affronter les crises climatiques?
La Croix-Rouge publiait ce matin son deuxième rapport sur la résilience de la société. Or, selon l'association d'aide humanitaire, quand bien même les pouvoirs publics comme les populations ont désormais conscience de la nécessité d'être formés au bon comportement, la proportion de citoyens effectivement formés reste insuffisante. Véronique Robert, bonjour.
Bonjour.
La Croix-Rouge formule 10 propositions, Véronique, pour améliorer la gestion de la crise et notamment celle d'un sac d'urgence.
Un cata-kit, comme l'appelle la Croix-Rouge, un sac où on a pris soin donc de faire avant d'être en panique suite à une catastrophe naturelle et d'être avant d'être évacué. 11% des Français disposeraient déjà d'un sac d'urgence tout près. Il y a donc de la marge, que mettant dans un cata-kit des traitements médicaux indispensables, plus largement une trousse de premier secours, une lampe torche, de l'eau potable, de la nourriture non périssable, une radio et des piles. Car en cas de catastrophe naturelle ou pas d'ailleurs, la radio sera un des moyens de s'informer sur la situation. Le tout placé dans un endroit facile d'accès, on en vérifie le contenu une fois par an, les dates de péremption, de quoi donc affronter les premières heures d'une catastrophe. Autre recommandation aussi faite par la Croix-Rouge, qui là aussi souligne un manque de préparation des Français à une catastrophe, une formation aux gestes qui sauvent. 40% de la population française a déjà été formée au premier secours contre 80% chez nos voisins allemands. La Croix-Rouge suggère qu'à minima, chaque Français ait connaissance des réflexes vitaux. Il n'y a pas de fatalité, crie aussi la Croix-Rouge. On ne parle pas là de survivalisme, mais bien de savoir tout de suite réagir suite à des événements climatiques plus fréquents, vous l'avez dit, et plus intenses. C'est ce qu'on appelle la culture du risque. Elle est quasi inexistante en France.
Merci Véronique Robert.
12h46 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier, la guerre de représailles sans limite lancée par l'État hébreu contre la bande de Gaza a ramené les otages aux mains du mouvement islamiste reste l'un des objectifs affichés du gouvernement israélien. Sauf qu'après plus de 6 mois de combats acharnés, les familles se désespèrent de revoir un jour leurs proches. Or, hier soir, dans une vidéo diffusée par le Hamas, un jeune homme a réapparu. Hersh Goldberg Pauline, 23 ans, y accuse sous la contrainte Benjamin Netanyahou d'avoir abandonné les otages. Un message qui a provoqué la mobilisation spontanée hier soir de dizaines de manifestants devant la résidence du Premier ministre où s'est rendu ce matin notre correspondant Thibault Lefebvre.
Encore ce matin, l'odeur pestilentielle persiste.
Ils nous ont aspergés pendant la manifestation avec ce qu'on appelle en hébreu
un putois.
On criait dans les rues et ils ont décidé d'être violents.
Violents contre environ 200 jeunes de Jérusalem comme Odaya, la vingtaine. Elle est descendue spontanément hier soir après la diffusion de la vidéo.
Jérusalem est une ville communautaire et l'une de ces communautés, c'est les supporters d'un club de football.
De l'Apoel Jérusalem, le club de gauche de Jérusalem.
Hersh appartient à cette communauté. Beaucoup de gens ici le connaissent, beaucoup de jeunes, et ça explique pourquoi il est plus visible.
Et puis, il y a les parents de Hersh, Rachel et John.
My name is Rachel, and this is John. And we are the parents of Hersh Goldberg Pauline.
Qui ont appelé hier dans une vidéo les belligérants à revenir à la table des négociations et ils suscitent l'admiration des manifestants comme Tar.
Wow, I don't even know what to say. It's very painful.
La jeune fille ne trouve pas ses mots et dit éprouver une profonde douleur.
Reportage signé Thibault Lefebvre. Un peu moins d'un mois après sa réélection à la tête de la plus grande ville de Turquie, le maire d'Istanbul affrontera cet après-midi une nouvelle audience au tribunal. Depuis sa première victoire, c'était en 2019, la justice a déjà ouvert plusieurs procès contre Ekrem İmamoğlu. Des procès dont l'édile et son parti estiment qu'il vise à lui barrer la route en tant que rival potentiel de Recep Tayyip Erdogan, à moins que le désaveu cinglant subi par le président aux dernières municipales ne conduise finalement à mettre un terme à ces procédures. C'est en tous les cas ce que veut croire aujourd'hui cette figure de l'opposition. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, la révolution des œillets balayait 48 ans de dictature au Portugal, ouvrant ainsi la voie à la démocratie, mais aussi à l'indépendance de ses colonies en Afrique, un anniversaire qui ne saurait toutefois masquer le contexte politique actuel marqué par la percée de l'extrême droite aux législatives du mois dernier. Le procès au pénal historique de Donald Trump reprend aujourd'hui à New York, avec notamment le témoignage a priori haut en couleur d'un ex-patron de tabloïd au service de l'ancien président pour tuer les scandales les plus embarrassants. Et puis c'est également aujourd'hui que la Cour suprême américaine devrait, sauf énorme surprise, rejeter l'immunité pénale invoquée par le milliardaire. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, avec des nuages et des précipitations attendues sur un large quart sud-ouest. Ciel couvert également dans le nord-est, le long de la frontière. En revanche, des plaines du Roussillon et du Languedoc jusqu'à PACA, le soleil s'imposera. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.